إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Après avoir fait une présentation de ce livre que nous allons étudier ensemble, qui est Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe des musulmans, nous allons commencer à lire l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Il commence son livre d'abord par Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est en suivant le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants commencent leurs écrits par le basmala. Puis après avoir dit Bismillahir Rahmanir Rahim ou écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, ils louent Allah tabaraka wa ta'ala et invoquent les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois points précités font partie des bienséances de l'écriture selon l'unanimité des savants. Tous les savants sont d'accord pour dire que ces trois points, dire d'abord le basmala, puis faire la louange à Allah, puis invoquer les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses bénédictions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie de la politesse et des bienséances dans les règles d'écriture. Naam. Donc, il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, puis il a écrit l'introduction que notre frère va lire, inshallah. Fadal.
Toute louange revient de droit à Allah, Seigneur de l'univers. Le terme en arabe, al-alamin, désigne tout ce qui existe en dehors d'Allah. La fin heureuse est réservée aux pieux, et pas d'inimitié si ce n'est envers les injustes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé, le souverain, le vrai de toute évidence. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des pieux. Allah le couvre d'éloges, ainsi que sa famille, ses compagnons et quiconque les aura suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, a certes envoyé son messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité, comme miséricorde pour l'univers, modèle pour ceux qui œuvrent dans le bien et comme preuve contre l'ensemble de ses serviteurs. Il a montré à travers lui et à travers ce qu'il lui a révélé du livre et de la sagesse. Le terme en arabe al-hikma, que l'on traduit littéralement par sagesse, dans ce contexte, désigne la sunna, qui est une révélation d'Allah, tout comme le Coran. Ce qu'il lui a révélé du livre et de la sagesse, tout ce qui est bénéfique aux serviteurs et arrange leur situation dans leur religion et dans leurs affaires de ce bas monde, notamment les croyances authentiques, les œuvres droites, les hautes moralités et les mœurs les plus méritoires, ainsi que les politesses les plus hautes.
Non. Alors ici, le cheikh commence en louant Allah tabaraka wa ta'ala, en appelant les bénédictions et les louanges envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et tous ceux qui l'ont suivi avec bienfaisance et excellence. Puis il a rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, la religion de guider, qui est une miséricorde pour l'univers et un guide, un modèle pour tous ceux qui veulent œuvrer dans le bien et une preuve contre l'ensemble des serviteurs. Il a montré à travers lui, à travers ce qu'il lui a révélé du Coran et de la Hikma, qui est la Sunna, qui est une révélation au même titre que le Coran, le modèle à suivre et tout ce qui est bénéfique pour les serviteurs dans leurs affaires de ce bas monde ou dans l'au-delà. Ici donc, il parle de la révélation du Coran et de la révélation de la Sunna. Nous avons parlé auparavant du sens de la Sunna générale. Le sens général, c'est la religion d'Allah. C'est tout ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit la sunna aussi, c'est en opposition à la bid'a, c'est-à-dire tout ce qui est rapporté avec une preuve, tout ce qui fait partie de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion avec laquelle il est venu, contrairement à la bid'a qui est contradictoire à cela. Il y a aussi des définitions plus précises, comme la définition de la sunna chez les savants du fondement de la jurisprudence, qui disent c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou approuvé. Ils excluent les caractéristiques morales et physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la définition de la sunna, car ceci n'est pas étudié dans les fondements de la jurisprudence. Dans les fondements de la jurisprudence, on étudie ce dont on a besoin pour tirer des règles. Et les caractéristiques morales et physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie des choses dont on tire des règles de jurisprudence. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été introduites dans cette définition. Contrairement à la définition de la sunna, chez les muhaddithines, chez les savants du hadith, qui se sont employés à préserver et à nous transmettre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a approuvé, mais aussi ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques morales. Comme on peut trouver par exemple dans Shama'il al-Tirmidhi, Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam al-Tirmidhi, qui réunit ses caractéristiques physiques et morales du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ou comme on peut le trouver dans les différents livres de hadith éparpillés ou sous des chapitres précis. Ce qu'il faut retenir et qui est essentiel à comprendre, c'est que la sunna est une révélation au même titre que le Coran. La sunna est aussi une révélation au même titre que le Coran. La différence est que le Coran est la parole d'Allah directement dans son sens et dans les mots. Alors que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une révélation qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou approuvé par lui, ou il a agi sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière, ou il a pratiqué des adorations sous la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière, mais c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, c'est pour ça qu'on lui attribue à lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans sourate An-Nisa verset 59, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Et si vous vous disputez sur une affaire, alors ramenez-la à Allah et à son messager si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'idah, verset 92, وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers et prenez garde, et prenez garde. Allah ta'ala dit dans sourate An-Nisa, verset 80, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui a obéi au messager, il n'a fait en fait qu'obéir à Allah. Celui qui a obéi au messager n'a en fait qu'obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et plusieurs autres versets dans ce sens. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Et il a révélé sur toi, ô Muhammad, le livre ainsi que la sagesse. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette sagesse qu'Allah a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la sunna. On voit bien ici, الواو للمغايرة. C'est-à-dire, c'est autre chose que le livre. Le livre et la sagesse. Cette sagesse qu'il lui a révélée, c'est la sunna du prophète alayhi salat wa salam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, qui a été jugé acceptable par le Cheikh Al-Albani, je vous ai laissé après moi deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrochez, le livre d'Allah ainsi que ma sunna, ma tradition. De même que l'imam Abu Dawood a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'on m'a donné le Coran et son semblable avec lui, n'est-ce pas qu'il m'a été donné le Coran et son semblable avec lui. De quel semblable parle-t-il ici? De la sunna, semblable dans la révélation, semblable du fait que c'est une révélation comme le Coran. Et il y a plusieurs textes, plusieurs écrits des savants où ils ont parlé de la place de la sunna en islam et de sa valeur, que ce soit dans les points de la croyance ou que ce soit dans les points des actes ou dans toute chose de la religion. Contrairement à certaines sectes qui ont apparu et qui renient la sunna, ils se nomment mensongèrement al-Qur'aniyoun, les coranistes. Mais en fait, ce ne sont pas des Qur'aniyoun, car quelqu'un qui suit le Qur'an, il suit la sunna. Car c'est le Qur'an qui dit qu'il faut suivre la sunna. C'est le Qur'an qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation en plus du Qur'an. C'est le Qur'an qui ordonne d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui se nomment suiveurs du Coran en délaissant la sunna, ils ne sont en réalité que les suiveurs de leur passion, de leur compréhension, de ce qu'ils ont voulu faire dire eux au Coran, et non pas ce que le Coran a dit. Donc en réalité, ce ne sont pas des Coraniyoun, mais des Shaytaniyoun. Shaytaniyoun, ils n'ont suivi que Shaytan qui les a égarés de la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. Et il est interdit de faire la différence entre la sunna et le Coran dans les lois religieuses et aussi dans les informations que la sunna nous apporte. La différence que l'on fait, c'est dans l'éloquence. Car la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, rien ne l'égale dans l'éloquence. C'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une de ses missions, et sa mission principale d'ailleurs, c'est d'expliquer le Coran. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a dit dans le Coran al-Karim, qu'il a chargé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'expliquer ce qui leur a été révélé. Et tubayyina linnasi ma unzila ilayhim. Et la sunna est venue agir avec le Coran de trois manières différentes. Premièrement, elle est venue avec des règles concordantes, confirmant et appuyant ce qui est venu dans le Coran. Deuxièmement, elle est venue avec des règles expliquant et détaillant ce qu'il y a dans le Coran. Donc la sunna est venue expliquer ce qui était cité de manière indistincte dans le Coran. De même qu'elle est venue détailler ce qui était cité de manière globale. Elle est venue réglementer ce qui a été cité de manière absolue. Elle est venue spécifier ce qui a été cité de manière générale. Elle est venue exposer les règles et les objectifs du Coran. Un exemple de cela, la salat, les horaires de salat, la manière de jeûner, tous les détails dans les adorations, la manière de faire le pèlerinage, tout ceci est rapporté dans la sunna. Tous ces égarés qui renient la sunna, alors en réalité comment ils prient? Comment ils peuvent prier? Comment peuvent-ils connaître le nombre de rak'at à faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment on doit se lever? Comment on doit s'incliner? Combien de prosternations? Tout ça, ce n'est pas spécifié dans le Coran. La manière de faire le pèlerinage, les endroits où aller, comment y aller, dans quel ordre, toutes ces règles-là ne sont pas spécifiées dans le Coran de manière détaillée. Toutes les adorations, beaucoup de choses, les interactions. En vérité, ces gens-là, ils n'ont fait cela que pour s'enfuir des injonctions de la sunna. Car la sunna est contraignante. Quand Abdullah ibn Abbas a été désigné par Ali ibn Abi Talib pour aller débattre avec les Khawarij, il lui a donné un conseil avant d'aller débattre avec eux. Il lui a dit, débat avec eux en utilisant la sunna, les hadiths. Car le Coran peut avoir plusieurs visages. Allahu Akbar. C'est-à-dire, chacun peut l'interpréter comme il veut. S'il ne s'attache pas aux hadiths, s'il ne s'attache pas à l'explication des sahaba, chacun peut expliquer le Coran selon ses passions, comme il veut. Voilà pourquoi toutes les sectes de l'islam, la première chose qu'ils attaquent, c'est la sunna, c'est les hadiths. Ils remettent en question l'attachement aux hadiths. Et en tout temps, depuis les premières sectes jusqu'à aujourd'hui, ils n'utilisent que la même méthodologie à semer le doute sur les hadiths authentiques que toute la communauté a accepté depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Ils ont agi avec et ils mettent le doute sur ces hadiths-là. Il y a aujourd'hui encore des gens qui s'affilient à la prédication ou bien des youtubeurs qui remettent en doute les hadiths dans le Bukhari et Muslim et dans la plupart des livres de hadiths en général, sans se baser sur aucune preuve ni aucune règle parmi les sciences du hadith, selon les passions et les désirs. Donc, il faut faire très attention. Cette prédication est omniprésente. C'est pour ça, ne croyez pas que j'en parle. C'est quelque chose qui n'existe pas. Je parle de quelque chose qui est que dans les livres. Non, non, non. La grande attaque contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les époques et aujourd'hui. Beaucoup. C'est pour cela, barakallahu fikum. La différence. Certains vont se baser sur certaines vérités, mais pour remettre en doute d'autres vérités. C'est-à-dire, ils disent des paroles vraies, mais pour faire passer leurs faux. Et on a déjà expliqué à plusieurs reprises qu'une ambiguïté, c'est quelque chose d'ambigu qui ressemble à la vérité. C'est-à-dire, la personne, elle va le couvrir d'une parole vraie et il va mettre le poison à l'intérieur. Il va pas venir tout de suite te dire « renie la sunna, renie l'islam ». Jamais quelqu'un va te dire « viens, renie l'islam ». Est-ce que tu vas le suivre ? Tout musulman qui a un minimum, un atome de foi dans son cœur, il va lui dire non. Mais il va te dire « viens, tu n'as pas compris l'islam. Je vais t'expliquer l'islam. L'islam, ce n'est pas si. Les hadiths, c'est un travail humain. Les hadiths, c'est un travail humain et les humains, ils sont manquants. Alors, on peut remettre en question tous les hadiths. » Voilà comment ils te disent les choses. Comment on va répondre à cette ambiguïté ? Quand ils vont te dire « oui, l'authentification des hadiths, c'est un travail humain. » Alors, on va y répondre de plusieurs manières. Premièrement, Allahu tabaraka wa ta'ala s'est chargé de préserver sa religion. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui nous chargeons de la préserver. Et dhikr, comme Ibn Hazm l'a expliqué de manière explicite, cela englobe le Coran et la Sunna et non pas seulement le Coran, car la Sunna aussi est du dhikr. Quand Allah Ta'ala dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ce sont qui les gens du rappel ? Les gens du Coran et la Sunna. Les gens qui maîtrisent le Coran et la Sunna du prophète alayhi salat wa salam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a préservé le Coran, il a été mémorisé par cœur et transmis d'un grand groupe à un grand groupe. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la Sunna. La Sunna, elle se divise en deux catégories. Al-mutawatir wal-ahad, ceux qui a été rapporté d'un très grand groupe de personnes, comme pour le Coran, et ceux qui nous a été rapportés de manière singulière, c'est-à-dire qui sont moins d'un très grand groupe, qui sont dans les chaînes de transmission qui peuvent être parfois une, deux, trois personnes, quatre personnes, parfois une seule. Mais est-ce que cela nous permet de les laisser ? Non. La différence, la seule différence, c'est qu'il y a une partie qu'on accepte sans étude, tout ce qui est mutawatir, ça n'a pas besoin d'être étudié, car il n'y a aucun doute dessus. Et il y a une autre partie de la sunna qu'on accepte qu'après étude. Et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi, depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui, des savants du hadith qui ont travaillé pour authentifier et vérifier tout ce qui est authentique provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre de côté tout ce sur quoi il y a ne serait-ce qu'un doute. Un doute. Quand il y a un doute, ils le mettent de côté. Par exemple, quand on dit un hadith, il est da'if, il est faible. Est-ce que c'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit ou ne l'a pas fait? Non. C'est possible qu'il l'ait dit et qu'il l'ait fait. Mais on n'en est pas certain. On a un doute. Voilà pourquoi il a été jugé da'if, faible. Après, dans le da'if, il y a des degrés. Mais en général, est-ce que tout ce qui est da'if, ça veut dire que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait ou ne l'a dit? Non. Il est fort possible qu'il l'ait dit et qu'il l'ait fait. Mais on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Il y a un doute, même si petit soit-il. Alors, à cause de ce doute-là, on l'a délaissé. Et si la personne dit « oui, mais c'est un effort humain est manquant », on dira « oui, c'est vrai, l'effort d'une personne est manquant. L'effort d'une personne est manquant. » Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a préservé personne de l'erreur après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, mais Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la communauté dans son ensemble de l'erreur. C'est-à-dire quand il y a unanimité, c'est-à-dire quand les savants de la communauté se mettent d'accord sur l'acceptation d'un hadith, sur son authentification ou sur sa faiblesse, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « ma communauté ne se réunit pas sur un égarement ». Car si on acceptait cela, cela voudrait dire qu'il y a certaines périodes, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il est possible que la religion de vérité ne soit plus présente. C'est impossible. C'est pour cela que tous les hadiths qui parlent du fait que cette communauté ne reviendra pas au shirk, oui, dans son ensemble, c'est-à-dire, c'est pas comme les chrétiens qui sont tous tombés dans le shirk, dans leur ensemble, après que Isa alayhi salam fut élevé au ciel. Ce n'est pas comme les autres adeptes des prophètes précédents, mais cette communauté a été préservée de cela. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours un groupe de la communauté qui sera sur la vérité et victorieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc en résumé, l'ensemble des savants de la Ummah ne peuvent pas se tromper. L'ensemble des sahaba, l'ensemble des tabi'in, l'ensemble des tabi' tabi'in, l'ensemble des savants du hadith ne peut pas se mettre d'accord sur l'acceptation d'un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur effort est faux. Par contre, certains d'entre eux, certaines individualités parmi eux peuvent se tromper. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour cela des protections. Car quand un savant de la sunna se trompe, les autres savants lui répondent. Les autres savants corrigent son erreur. Les autres savants viennent travailler derrière lui pour démontrer où est l'erreur et où est la vérité. Donc, alhamdulillah, en toute époque, Allah a choisi des gens qui sont les héritiers des prophètes pour préserver la religion d'Allah comme à son premier jour. Comme à son premier jour. Et tous ces négateurs de la sunna, ils ne se basent sur aucune science du hadith pour rejeter des hadiths. Ils rejettent les hadiths qui ne vont pas dans le sens de leur passion et de leur désir. Ils ont d'abord décidé de le rejeter et après cela, ils vont chercher des arguments pour camoufler leur rejet initial qui n'était pas basé sur la science, qui est un rejet lié à leur bid'a, à leur innovation qui est ancrée dans leur cœur, à leur passion. Puis après, ils vont te dire « Oui, mais tel savant a émis des réserves sur tel rapporteur ou tel… » Mais lui, il n'a pas fait une recherche scientifique pour arriver à ce résultat. Il a d'abord décidé du résultat, après il a été chercher tout ce qui peut renforcer son égarement. Et c'est pour ça qu'on les voit, ils se contredisent. Ils peuvent rendre authentiques des hadiths qui sont discutables et rejeter des hadiths dont l'authenticité n'est pas discutable. Tout cela parce que cela ne va pas dans le sens de leur raison ou de leur passion ou de leur bid'a ou de la voie et la méthodologie qu'ils ont suivie. C'est pour ça qu'il est interdit de différencier le Coran et la sunna dans les règles religieuses et dans les informations. Donc on a donné, premièrement, la sunna est venue conformément au Coran, concordant. Deuxièmement, expliquer et détailler comme on l'a dit. Et troisièmement, la sunna est venue avec certaines règles qui ne sont pas stipulées dans le Coran, qui respectent ses fondements et qui concrétisent ses objectifs. Des exemples de cela, par exemple, l'interdiction de manger de la viande de l'âne domestique. Ce n'est pas dans le Coran. Par exemple, l'interdiction de manger tous les animaux qui chassent avec leurs canines. Parmi les bêtes féroces, les animaux qui chassent avec leurs griffes, comme les aigles, etc. Le fait qu'une personne se marie avec une femme et sa tante maternelle et paternelle en même temps. C'est-à-dire qu'il prend deuxième épouse ou troisième épouse la tante maternelle ou paternelle d'une femme. Ça, la sunna l'a interdite. Ce n'est pas dans le Coran. Donc il y a des règles comme cela, dont la sunna est venue avec, qui vont dans le sens du Coran, qui concrétisent ses objectifs, qui respectent ses fondements. Mais ce ne sont pas des règles qui sont citées ni en général, ni en détail dans le Coran. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit « Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a établi et qui ne se trouve pas dans le livre d'Allah, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné de jugement dans son livre, alors il l'a établi par le jugement d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah nous a informés en nous disant, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, siratillah. » Et certes, tu guides, ô Muhammad, à une voie rectiligne, la voie d'Allah. Surat Shura, verset 52-53. L'imam Shafi'i continue en disant, « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a instauré des règles avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même qu'il a instauré d'autres règles qui ne sont pas citées précisément dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala par un texte. Mais tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré, Allah nous a rendu obligatoire de le suivre en cela. Et il a fait que son suivi fait partie de son obéissance, c'est-à-dire de l'obéissance à Allah. Et celui qui se détourne de son suivi, il a en cela désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala et il n'aura auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala aucune excuse pour cela dans le sens de ses paroles dans son livre Ar-Risala, page 88 et 89. On retrouve cela aussi dans beaucoup de paroles de savants comme Ibn al-Qayyim et d'autres Vous pouvez retrouver, inshallah, les détails de tout cela dans une conférence ou une khutbah que j'ai donnée sur l'importance de la sunnah. Ça détaille plus ces points dont je viens de parler. Naam, faddal.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc laissé sa communauté sur un chemin clair de jour comme de nuit, dont personne ne s'écarte sans être voué à la perdition. Les gens de sa communauté, qui répondirent à l'appel d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cheminent sur ce chemin. Ils furent les meilleurs de la création. Parmi eux, on compte les compagnons, leurs successeurs et ceux qui les suivirent avec excellence.
Ici, il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, quelle est la définition d'un compagnon? Un sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur cette foi. Donc, il y a trois choses à prendre en compte ici pour reconnaître un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La rencontre, qu'il ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Deuxièmement, quand il l'a rencontré, il était croyant. Parce qu'il y en a qui l'ont rencontré mécréant et qui sont devenus musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i ou un mukhadram. Mais un mukhadram, c'est un tabi'i. Troisièmement, qui est mort sur cette foi-là. Voilà comment on reconnaît un sahabi. Après, il y a certains détails concernant l'âge de discernement. C'est-à-dire ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils étaient tout petits, qui n'avaient pas l'âge de discernement. Cela, sahih, c'est qu'on dit que ce sont des sahabas. Mais concernant ce qu'il rapporte, s'il n'y a pas une chaîne de transmission directe jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera considéré comme un mursal de tabi'i. Voilà, il y a une petite précision, une recherche des savants du hadith dans ce point-là. Mais sinon, tant qu'ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui, alors ce sont des sahaba. Ils ont cette vertu-là, non, mais qu'ils sont morts sur la foi, bien sûr. Faddal.
Parmi eux, on compte les compagnons, leurs successeurs et ceux qui les suivirent avec excellence. Ils mirent en pratique sa législation et s'attachèrent fermement à sa sunna, en y mordant à pleines dents, tant au niveau de la croyance, de l'adoration, de la moralité ou du comportement. De ce fait, ils devinrent le groupe qui ne cessera d'être sur la vérité triomphant. Nul mal venant de la part de ceux qui ont refusé de leur porter secours ou de ceux qui les ont contredits ne les atteindra, et ils resteront sur cette voie jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous cheminons, toute louange revenant à Allah de droit, sur leurs traces, et nous nous guidons à l'aide de leur conduite corroborée par le Coran et la Sunna. Nous disons cela dans le but d'évoquer les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur nous et pour montrer ce sur quoi se doit d'être chaque croyant.
Ici, le cheikh montre la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec excellence, de même que ce sur quoi il est obligatoire d'être pour chacun. Et il n'a pas eu de mal lui-même à s'affilier à cela. Il dit, nous cheminons par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leurs traces. Et il a exposé qu'il ne dit pas cela pour se vanter. Donc là, on voit par exemple une chose très importante, le fait de s'affilier au salaf, dire je suis salafi, je suis min ahl sunnah. Si en cela la personne elle cherche la vantardise, ça devient haram. Si c'est pour s'élever sur les autres et la vantardise. Si par contre c'est juste une information de ce sur quoi la personne elle tend, ce sur quoi elle est, sa croyance. C'est pour ça on dit je suis salafi, inshallah, inshallah. C'est-à-dire, inshallah, sincèrement, parce que je peux... Je suis salafi, oui, dans la voie que je veux suivre, à laquelle je m'attache. Mais est-ce que réellement ma foi, elle est comme la foi des salafs? Est-ce que mon comportement, elle est sur la voie des salafs? Est-ce que mes pratiques, elles sont comme les pratiques des salafs? Non, on est loin de ça. Donc, si c'est juste pour annoncer la voie qu'on a choisie pour nous de suivre, la voie à laquelle on s'attache, il n'y a aucun grief en cela. Au contraire, on le fait quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, quand la personne a besoin de savoir quelle voie on suit, quel chemin on suit, quelle est notre méthodologie, on l'explique. Mais si ce besoin ne se ressent pas, alors on n'a pas besoin de crier partout, salafi, salafi, salafi. Chaque personne qu'on rencontre dans la rue, est-ce que t'es salafi, est-ce que t'es pas salafi? Non, on les appelle à la voie du bon chemin sans agir d'une manière qui pourrait être comprise comme une manière sectaire et qui peut déformer ce message qui est béni, qui est un message à la base pour réunir les gens sur la vérité. Par contre, si quelqu'un demain forme un groupe, une secte, un parti politique qu'il appelle salafi, alors ça ne lui servira à rien qu'il l'appelle salafi. Il restera un hizbi, il sera un sectaire, même s'il s'est donné tous les noms des gens de la sunna, même s'il s'appelle salafi, ahl al-athar, ahl al-sunna wal-jama'a, ta'if al-mansoura, et tous les noms qui peuvent exister dans le Coran et dans la sunna. Ça ne changera rien à la réalité de ce sur quoi il est. Donc l'important, c'est l'affiliation au salaf en réalité. En réalité, non pas seulement dans l'appellation, en réalité, dans notre croyance, dans notre voie, dans notre méthodologie, dans nos adorations, dans notre comportement, dans la voie qu'on suit. Et quand on a besoin de la définir, on la définit. Je suis salafi, alhamdulillah. Et alors, comme il n'y a pas longtemps, ils ont questionné Cheikh Saleh Ali Cheikh. Qu'est-ce qu'on dit si quelqu'un te dit, est-ce que tu es salafi? Tu dis, oui, il est où le problème? Salafi. Et qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Oui, je suis salafi. Je suis honoré de m'affilier aux salaf, aux pieux prédécesseurs, aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba qui ont appris l'islam de lui et qui l'ont transmis comme ils l'ont appris. Naam. Alors ici, le cheikh explique cela. Il dit, nous disons cela pour évoquer les bienfaits d'Allah sur nous. C'est-à-dire, alhamdulillah, on remercie Allah d'être sur la bonne voie. D'avoir, qu'Allah nous ait guidés sur la bonne voie. Et pour montrer ce qui est obligatoire pour chaque croyant de suivre. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une bonne chose. Barakallahu fikum. On voit ici l'importance de l'attachement au Coran et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en se conformant à la voie sur laquelle il était sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, ceux qui les ont suivis avec bienfaisance parmi les deux générations venant après les compagnons, c'est-à-dire tabi'un wa tabi'ut tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons des successeurs et les successeurs des successeurs. Et cela sans rien changer, ni modifier, ni ajouter, ni diminuer de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a testé avec cela pour voir si on aime vraiment Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il est donc obligatoire de suivre la voie du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en empruntant la même méthodologie, la même voie, la même compréhension que les pieux prédécesseurs. As-salaf as-salih. As-salaf as-salih. As-salaf. Ça veut dire ceux qui nous ont précédés. As-salih, pieux. Parce qu'il y en a qui nous précèdent qui ne sont pas pieux. Ce ne sont pas des exemples. Nous, on prend exemple sur les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, ils forment les trois premières générations avec à leur tête le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète d'Allah radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, et ceux encore qui suivent ces derniers. » Il s'agit donc de la génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, puis ceux qui ont suivi les compagnons et ceux qui ont suivi les suiveurs des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et a dit « Je vous recommande la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir, même si votre dirigeant est un esclave, celui d'entre vous qui vivra verra de grandes divergences. » Suivez ma tradition, ma sunna, et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires, et prenez garde aux nouveautés en religion, car toute innovation est un égarement. Et tout ce que l'on vient de citer sont des preuves marquant l'obligation de suivre le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, non pas avec la compréhension conforme à nos passions ou à ce que l'on désire ou à une compréhension moderne ou concordant avec les passions et les envies des juifs et des chrétiens et de la civilisation dominante. Non, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Naam, tafaddal.
Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir ainsi que nos frères musulmans par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et de nous accorder de sa part une miséricorde. Il est certes celui qui donne avec largesse. Vu l'importance de ce sujet et les divisions causées par les passions des gens dans ce domaine, j'ai souhaité, sous forme de résumé, rassembler par écrit notre croyance. La croyance des gens de la sunna et du groupe, qui est la croyance en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et en la prédestination, favorable ou défavorable. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse en sorte que cet effort soit accompli exclusivement pour son visage, en concordance à ce qu'il agrée, et qu'il soit bénéfique pour ses serviteurs, l'auteur.
L'auteur. Certains après ont mis Cheikh Mohamed Musalih al-Uthaymin, ça c'est pas sa signature. Lui, sa signature, il a mis l'auteur, tout simplement. Donc ces dernières paroles montrent l'importance d'expliquer les piliers de la foi, car comme on le verra, beaucoup de sectes se sont égarées par rapport à la croyance dans ces différents piliers, en particulier en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le Cheikh va y accorder une grande partie au début de son livre. Non. Faddal.
Notre croyance. Notre croyance consiste en la foi en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et en la prédestination bonne et mauvaise. Ainsi.
Alors, il commence, rahimahullah, en citant quels sont les fondements de notre croyance. Et pour citer ces fondements-là, il ne les a pas cités de sa raison, de son envie ou parce que les gens ils disent ci ou ça, mais il les a cités en se basant sur le Coran et sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve qui est la plus connue et répandue en ce sens, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Informe-moi au sujet de l'islam ». Alors il l'en a informé, puis il lui a dit « Informe-moi au sujet de la foi, al-iman ». Alors il a dit « C'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, rapporté par l'imam muslim. » Concernant la croyance en Allah, tabarak wa ta'ala, bien sûr, en premier lieu, croire en son existence, contrairement aux athées, tous ceux qui renient l'existence d'Allah, tabarak wa ta'ala. En réalité, quand on fouille au fond de ce que les athées pensent, la plupart d'entre eux renient l'existence d'Allah par orgueil et pour défier Allah. Et quand quelqu'un défie Allah subhanahu wa ta'ala, en soi, le fait de le défier, c'est accepter son existence, sauf qu'il n'accepte pas de le reconnaître. Donc, ce premier cas, il est clair et il y a pas mal, alhamdoulilah, d'écrits et de réponses de savants à tous ceux qui ont été touchés par l'ambiguïté de l'ilhad, de l'athéisme. En réalité, comme il a été déterminé et expliqué, toute personne qui ne veut pas être un serviteur d'Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, va l'avilir et il sera serviteur d'un autre qu'Allah. Ou il sera serviteur de ses passions, ou serviteur d'un autre être humain, serviteur parfois d'une pierre. Donc, croire en l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et croire en la seigneurie et en la divinité et dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Croire que c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré et que c'est lui qui détient tous les noms et les attributs parfaits. Donc le tawhid, en arabe, le terme tawhid provient du nom verbal du verbe wahada, yuwahidu, qui fait référence à la notion d'unicité, de particularité dans une chose. Donc le tawhid désigne établir ou reconnaître l'unicité d'une chose. Cela peut aussi vouloir dire unifier quelque chose d'éparpillé ou de multiple. D'ailleurs, dans Al-Mu'ajam Al-Wasit, c'est un dictionnaire de référence en langue arabe, ils font la différence quand on dit « wahad Allah » et « wahada » une chose. Quand il parle d'Allah, il dit « il a reconnu et il a eu foi qu'il est unique ». Et quand on parle d'une chose, il l'a rendu unique. Donc quand on dit que le croyant, il unifie Allah, c'est-à-dire, c'est pas il l'unifie. La traduction, elle n'est pas bonne, dire il l'unifie. On dit, il croit en son unicité. Ou bien, il lui attribue l'unicité. Parce qu'on ne peut pas unifier Allah, tabarak wa ta'ala. Allah n'est pas multiple ou éparpillé pour l'unifier, comme les choses. On croit en son unicité. On lui attribue l'unicité. Et ça, c'est le sens. Dans la langue arabe, cela existe, ce sens. Comme Ibn Faris, rahimahullah, a dit dans Mu'ajam, Maqayis al-Lugha, le waw, le ha et le del constituent une seule racine indiquant l'infirad, c'est-à-dire l'isolement ou le fait d'être unique. Al-Khalil ibn Ahmed, qui est mort en l'an 160 de l'Hégire, 160 et quelques, rahimahullah, a dit dans son dictionnaire Al-Ain, Al-Tawhid, c'est la foi en Allah seul sans associé. De même, Al-Azhari l'a cité dans Tahdhib al-Lugha et Ibn Sida dans son dictionnaire. Ainsi, Fairuz Abadi, rahimahullah, l'a cité aussi dans son dictionnaire. On trouve l'imam Safarini, rahimahullah, qui dit dans son livre Lawami' al-Anwar, Al-Tawhid se trouve sur le schème de Taf'il, indiquant le rattachement et l'affiliation, comme At-Takdhib, qui indique le fait d'affilier autrui au mensonge, ainsi que At-Tasdiq, qui indique le fait d'affilier autrui à la véracité, et non pas dans le sens de rendre unique. De même, Az-Zabidi, rahimahullah, a dit dans son dictionnaire, Wahadahu, il l'a rendu unique. Et ça, comme on a dit, ça c'est quand on parle d'une chose. Sinon, c'est croire dans son unicité. Ça, c'est le sens linguistique de Tawhid dans la langue arabe. Donc on voit que son sens n'est pas limité au fait d'unifier une chose qui était auparavant éparpillée. Mais ceci prend ce sens seulement quand il s'agit des choses. Mais quand il s'agit d'Allah tabaraka ta'ala, c'est le fait de lui attribuer l'unicité, de croire en son unicité. Religieusement parlant, la définition du tawhid, c'est le fait de croire en l'unicité d'Allah tabaraka ta'ala dans ce qui lui est propre, c'est-à-dire avoir la croyance et reconnaître qu'il est unique dans la seigneurie, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur, possesseur de toutes choses et le seul à administrer toutes choses. Dans la divinité, c'est-à-dire qu'il est le seul à mériter l'adoration. Dans ses noms et ses attributs, c'est la croyance qu'Allah est le seul à détenir la perfection absolue en toutes choses par les attributs de grandeur et de majesté, et ce, en affirmant ce dont il a affirmé lui-même à son sujet, et en affirmant ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et attribut à son sujet, sans altération, ni reniement, ni description du comment, ni assimilation ou bien similitude. On voit donc que le sens du tawhid est le fait d'attribuer l'unicité à Allah ou de croire en l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le tawhid, comme on l'a dit ici, se divise en trois catégories. Je vais vous lire une parole très intéressante concernant les catégories du tawhid. Le noble cheikh Suleyman ibn Abdillah ibn Abdil Wahhab, rahimahullah, a dit dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid, après avoir parlé des trois catégories de tawhid, donc il dit après avoir parlé des trois catégories de tawhid, c'est en ces trois catégories que se divise le tawhid des prophètes et des messagers avec lequel ils sont venus de la part d'Allah. Ces trois catégories sont inséparables. Aucune d'entre elles ne peut se détacher de l'autre. Et si l'individu en applique une en n'en appliquant pas l'autre, ce n'est que parce qu'il ne l'a pas accompli de manière complète comme il lui est demandé. Fin de citation. Donc on voit que si une personne avait concrétisé correctement le tawhid dans le rububiyya, ceci le poussera à concrétiser le tawhid dans l'uluhiyya ou l'asma ou sifat. Cette division n'est pas une division réelle. C'est-à-dire, on peut pas diviser notre croyance. On ne divise pas notre foi en Allah. On ne divise pas Allah en trois, subhanahu wa ta'ala. C'est une division scientifique pour expliquer, pour approcher la compréhension aux gens. Donc, ceux qui disent, oui, mais vous divisez Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, etc., ou bien vous divisez la croyance. Non, ce n'est qu'une manière d'expliquer. Par contre, il faut savoir que cette manière d'expliquer, elle n'a pas été inventée. Même si elle n'est pas explicitement citée dans le Coran et la Sunna, mais elle a été citée par des ulama, des grands ulama, comme Ibn Battah dans l'Ibana, qui est mort en l'an 387, comme l'imam Ibn Mandah, qui est mort en l'an 395. Et avant eux, l'imam Abu Yusuf, qui est mort en l'an 182 de l'Hégire. Tous ceux-là ont cité ces catégories du tawhid, et bien sûr après eux, beaucoup. Alors on va dire, d'où sortez-vous ces trois catégories? On va dire, la manière dont les savants ont cité ces trois catégories, c'est l'étude globale et précise de tous les textes. C'est-à-dire que quand ils ont étudié tous les textes appelant au tawhid et parlant d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont rendus compte que dans tous les cas, ils ne sortent jamais d'une de ces trois catégories. Ou bien ils parlent de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ou bien de l'unicité d'Allah dans la divinité, ou bien de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et ils ont demandé n'importe quel verset hadith qu'on peut sortir qui parle de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, il pourra rentrer dans une de ces trois catégories. Et il ne pourra pas être extérieur à l'une de ces trois catégories. Donc, il n'y a pas de mal en cela, car nous n'adorons pas Allah subhanahu wa ta'ala par cette classification. C'est pas une manière d'adorer Allah. On n'a pas créé une adoration, une innovation. Mais ce n'est qu'un moyen d'expliquer les choses. Et ceci existe dans toutes les sciences. Comme par exemple, maintenant les savants, ils ont classifié les piliers, les obligations, les sunnahs de la salat. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas classifié. C'est pas dans le Coran ou la sunna. Mais quand on le met en pratique, quand on regarde, on voit qu'en fait, cette explication, elle colle avec la compréhension du Coran et la sunna. Quand les savants de la langue arabe, ils ont dit le mot, el-kalima, c'est ou bien un ism, ou bien un fi'l, ou bien un harf, ou un nom, ou un verbe, ou une lettre. Est-ce que ça c'est dans le Coran et la Sunna? Non. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Que tous les mots en langue arabe, même les arabes auparavant, ils ne le connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas la grammaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avant eux. Ils le mettaient en pratique, mais ils n'avaient pas ces règles de grammaire, elles ont été inventées après, pour les non-arabes, pour ceux qui n'ont pas appris la langue arabe avec les arabes. Mais quand on regarde aujourd'hui, tous les mots de la langue arabe, ce sera ou un nom, ou un verbe, ou un harf. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, est-ce qu'on va dire que cette classification, cette division, elle est fausse? Non. Tout le monde s'est accordé sur l'acceptation de cette classification. Parce que ce n'est qu'une classification scientifique pour expliquer, pour comprendre, et non pas une division réelle du tawhid. Barakallahu fikum. C'est pour cela que ceux qui renient cette division, en réalité, ils ont d'autres objectifs derrière. Ceux qui renient cette division, c'est en réalité toujours quelqu'un des gens de la bid'a, de l'innovation. Pourquoi? Parce que ça le dérange qu'on explique les noms et les attributs de la manière dont Allah tabaraka ta'ala l'a expliqué. Ou bien, ceux qui vouent des cultes à autre qu'Allah tabaraka ta'ala, ça les dérange qu'on explique tawhid al-ibada. Alors, ils attaquent cette division et cette classification, et en réalité, ils en ont rien à faire de la classification. Ils ne font ça que pour pouvoir avoir un moyen de critiquer les gens de la sunna et de dire, bah vous voyez, vous aussi vous inventez des choses, alors nous aussi on a le droit d'inventer des choses. En fait, ils font ça pour pouvoir justifier leurs innovations. Et ils ne font pas la différence en cela, ou bien ils font exprès, ou alors ils ne comprennent pas du tout, entre des moyens d'explication dans lesquels l'homme est libre d'organiser des choses tant qu'elles ne contredisent pas le Coran et la Sunna, qui sont justes, et dans les adorations même. Par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait des universités islamiques? Est-ce qu'il y avait docteurs en sharia? Est-ce qu'il y avait docteurs en hadith? Tout ça, ça n'existait pas. Mais est-ce qu'on va dire aujourd'hui c'est une bid'a? Non, car ceci est un moyen d'organiser l'enseignement, de l'encadrer. Et ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif est l'enseignement de la science. Le moyen de l'encadrer, le moyen de l'organiser, l'être humain est libre là-dedans tant qu'il ne contredit pas le Coran et la Sunna, tant qu'il ne vient pas avec des choses interdites. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça, c'est très important à comprendre, car vous entendrez beaucoup cette ambiguïté répétée par les gens. Donc on dira premièrement, cette division est juste, car rien ne prouve qu'elle est injuste. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas prouver en pratique que tous les textes parlant du tawhid ne rentrent pas dans une de ces catégories. Elle rentrera obligatoirement dans une de ces catégories-là. Deuxièmement, elle a été utilisée par des savants anciens et l'acceptation de cette division a été reconnue par les savants jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, elle ne rentre pas dans l'adoration elle-même, mais on ne cherche pas en cela à adorer Allah tabaraka wa ta'ala ou à gagner des récompenses en pensant qu'en divisant le tawhid, on a une récompense spécifique. Non, ce n'est pas une adoration, mais ce n'est qu'un moyen d'expliquer et de détailler l'explication de la croyance aux étudiants, tout simplement. Donc, on a expliqué le sens de tawhid. On a dit que tawhid a trois catégories. On a expliqué quelle est la preuve de cette division. Et on a cité que ces trois catégories, elles sont toutes citées dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire pas le nom des catégories, mais ces catégories sont présentes dans le Coran et la Sunna. Et les trois formes de tawhid sont liées. Elles ne peuvent pas être séparées. Comme on a lu la parole de Cheikh Souleymane ibn Abdillah ibn Abdil Wahhab, rahimahullah, le petit-fils de Muhammad ibn Abdil Wahhab. Et que ceci a été décomposé par les savants afin de clarifier aux gens. Et que ne sera un vrai monothéiste que celui qui réunira en lui la croyance en ces trois catégories ensemble. Ça, il faut que ce soit bien clair. Barakallahu fikum. Premièrement, tawhid al-rububiyya. C'est le fait de croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est un terme pour désigner tout ce que Allah seul est capable de faire. Et les savants disent que les bases de l'unicité d'Allah dans la seigneurie sont trois. Premièrement, la croyance dans le fait qu'Allah, c'est lui qui crée, qu'il est le roi, le propriétaire, et c'est lui qui gère l'univers. Donc voilà les trois bases de l'unicité d'Allah dans la seigneurie. La création, la royauté et la propriété, et la gérance. Al-khalqu, al-mulku, wa al-tadbiru. Donc c'est Allah seul qui fait descendre la pluie, qui guide, qui égare, qui éprouve, qui secourt. C'est lui qui décrète ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, qui répond aux invocations, etc. Cette catégorie d'unicité, elle a été approuvée dans sa globalité par les mécréants. De l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant, C'est-à-dire, en général, tous les mécréants reconnaissaient la seigneurie d'Allah dans sa globalité, bien qu'ils pouvaient parfois renier certains points de la seigneurie dans les détails. Car on a déjà dit auparavant, on a lu la parole de Cheikh Souleymane ibn Abdillah ibn Abdul Wahhab, que s'ils avaient concrétisé le tawhid dans la seigneurie comme il faut, alors ils auraient concrétisé le tawhid dans l'adoration et dans les noms et les attributs aussi. Donc, quand on dit que les koufars, ils reconnaissaient le tawhid de Rububiya, oui, dans sa globalité, mais pas en réalité, pas concrétisé comme il faut. Car sinon, ils auraient concrétisé tout le tawhid. Donc, cette catégorie d'unicité a été approuvée de manière globale par les mécréants, que ce soit de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant lui. Pour autant, cela ne leur a pas suffi pour entrer en islam. Donc, croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le possesseur de toutes choses n'est pas suffisant pour entrer en islam. Le peuple de Quraysh croyait en ces choses-là. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Croire en cette unicité n'est pas suffisant pour être un croyant, bien sûr, comme on a dit, de manière globale. Donc, la preuve de ce premier type de tawhid, il y en a plusieurs. Parmi celles-là, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-A'raf, « Ala lahul khalqu wal amr » N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la création et le commandement? Allah tabaraka wa ta'ala dit « Walillahi mulku samawati wal ard » dans sourate al-Jathiyah, celui d'avant c'est dans sourate al-A'raf. Et c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Et beaucoup d'autres versets dans ce type-là. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il cite ce type de tawhid dans le Coran, c'est pour s'en servir, pour partir de ce que les associateurs approuvent et reconnaissent de manière globale, pour les amener à reconnaître et à en déduire que Allah seul mérite l'adoration dans ce cas-là. Alors pourquoi vous adorez des statues et des divinités en dehors d'Allah, puisque vous reconnaissez que c'est lui qui crée, qui possède et qui régit le monde? C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah, Ya ayyuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala les appelle à adorer Allah le Seigneur qui a créé et ceux qui les ont précédés. Donc il leur rappelle le tawhid dans Rububiya, dans la seigneurie, pour prouver qu'il mérite lui seul l'adoration. Ceci vient appuyer ce que l'on a dit auparavant, que si quelqu'un concrétise complètement le tawhid dans Rububiya, cela ne peut que l'amener à concrétiser complètement le tawhid dans l'uluhiyya et dans l'asma wa sifat, dans la divinité, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala s'adresse ici dans sourate al-Baqarah verset 21, s'adresse aux associateurs pour prouver qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Et il va se servir de choses auxquelles les associateurs croient pour les amener à accepter que Allah tabaraka wa ta'ala seul mérite l'adoration et pour qu'il se demande en même temps, c'est une mise en question. Pourquoi vous cherchez donc des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration si vous reconnaissez que Allah seul est le Seigneur? La deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire de croire qu'Allah est le seul qui mérite tout type d'adoration. C'est le fait d'unifier Allah dans nos actes. C'est-à-dire tous nos actes, on les rend uniques pour Allah. Toutes nos adorations, on les rend uniques pour Allah. Tawhid al-Rububiyya, c'est l'unicité dans ce que Allah fait. Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité dans ce que le serviteur fait comme adoration pour Allah. Et c'est au sujet de ce type de tawhid qu'il y a eu le conflit qui n'a jamais cessé depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours entre les prophètes et leur peuple. Car quand les prophètes ont été envoyés, les gens reconnaissaient de manière globale et générale qu'Allah était le Seigneur. Ils ont été donc envoyés pour convaincre les gens que puisque vous reconnaissez qu'Allah est unique dans sa seigneurie, alors il est le seul qui mérite l'adoration. Et c'est à partir de là qu'est apparue la mésentente entre les prophètes et leur peuple. Ce type d'unicité, c'est comme on a dit, dans les actions des serviteurs pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple l'invocation, le fait de sacrifier une bête, l'espoir, la crainte, la confiance, la peur. Quand le serviteur met en pratique ses adorations, il ne doit le faire que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça le sens de la parole « La ilaha illallah ». La ma'bouda haqqun illallah. La ma'bouda haqqun illallah. C'est-à-dire que le seul à être adoré en droit, c'est Allah seul. Le seul à être adoré en droit, c'est-à-dire de droit, qui mérite l'adoration, est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donc ordonné de diriger toutes nos adorations vers lui, comme il a dit, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Certes, les lieux de prière appartiennent à Allah, c'est-à-dire les prières sont pour Allah. N'invoque donc personne dans ces lieux-là avec Allah. Il ne lui donne pas d'associé. Puis la troisième catégorie, c'est le tawhid dans l'asma wa sifat, dans les noms et les attributs. Et on va détailler cela dans les prochains cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, faddal.
Ainsi, nous croyons en la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est le seigneur, le créateur, le souverain qui régit toutes choses. Nous croyons en la divinité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il est la seule divinité digne d'adoration et que tout objet d'adoration en dehors de lui n'est que fausseté. Nous croyons en ses noms et attributs, c'est-à-dire qu'il possède les plus beaux noms et les plus hauts attributs de la perfection. Nous croyons en son unicité dans tout ce qui a été cité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et attributs. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « Rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wa stabir li'ibadatih al ta'lamu lahu samiyan » Sourate Maryam, verset 65. « Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tous ceux qu'il y a entre eux. Adore-le donc et aie de l'endurance dans son adoration. Lui connais-tu un semblable ?»
Naam, juste ici, ce verset, à lui tout seul, il réunit les trois catégories du tawhid. Quand il dit « Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wa stabir li'ibadatih » Donc « Rabbu samawati wal ardi » il est le Seigneur des cieux et de la terre, ça c'est le tawhid dans le rububiyya. Fa'budhu, adore-le donc, tawhid al-uluhiyya, wastabir li'ibadatihi, hal ta'lamu lahu samiyya. Donc, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, adore-le donc, et de l'endurance dans son adoration, ça c'est dans tawhid al-uluhiyya, la divinité. Hal ta'lamu lahu samiyya, lui connais-tu de semblable, ceci est dans tawhid al-asma wa sifat. Donc on voit que dans un seul verset, Allah tabaraka wa ta'ala a cité ces trois catégories et c'est une des preuves que les savants avancent pour prouver cette division en trois catégories. Naam, faddal.
Nous croyons qu'il est Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le vivant, al-qayyum. Al-Qayyum désigne celui qui subsiste par lui-même, qui est immuable et qui établit sa création. Ni somnolence ni sommeil n'ont de prise sur lui. Lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur futur et leur passé, et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut. Son repose-pied, kursi, le terme en arabe kursi, désigne l'endroit où se trouvent les deux pieds d'Allah. Comme il est rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, par Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, 3116. Ce verset est communément appelé le verset du trône, or il n'y est aucunement fait mention du trône, mais plutôt du repose-pied. Donc son repose-pied, kursi, est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Nous croyons que c'est lui Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant et le sage. Nous croyons que la royauté des cieux et de la terre n'appartient qu'à lui. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il les donne en père, garçons et filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Et nous croyons que rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse à qui il veut ou les restreint. Certes, il est omniscient. Nous croyons que point de bête sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. Et il connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Nous croyons que c'est lui qui détient les clés de l'imperceptible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et il n'y a point de graines dans les entrailles de la terre, ni rien de frais ou de sec, sans qu'il soit enregistré dans un livre explicite. Nous croyons que c'est lui qui détient la connaissance de l'heure. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et aucune âme ne sait ce qu'elle acquerra demain. Et aucune âme ne sait dans quel endroit elle mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur.
Naam, jazakallahu khairan. Donc tous ces versets viennent prouver tout ce que l'on a cité auparavant sur les différents types de tawhid. Quand on médite chacun de ces versets-là, on voit dans tous ces versets qu'il parle de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans les noms et les attributs, dans sa divinité en détail. Alhamdulillah. Et Inch'Allah, on expliquera au prochain cours un peu plus en détail notre croyance concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le cheikh y accorde une très grande partie de son livre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.